On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes.
Une liberté de penser.
Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite.
Une force internationale.
Et même, on va plus loin.
Luc la liberté.
Luc, on sait que Donald Trump a la capacité de concentration d'un écureuil sur un double espresso. Alors, alors là, ça a l'air qu'il est déjà tanné. Là. Il a hâte que ça finisse. Là. Ça commence. C'est le début, puis il est déjà tanné.
Écoute, c'est plus drôle qu'autre chose qu'on nous rapporte, mais en même temps, ça montre le ridicule parfois, ou même le côté surréaliste de la politique américaine depuis quelques années. On a rapporté des journalistes, et en même temps, il y a toujours quelqu'un qui, pendant un procès, peint des scènes marquantes ou des scènes du procès pendant qu'il se déroule. Donc, il y a des journalistes qui ont dit, ben, écoutez, Donald Trump s'est endormi pendant le procès. Son équipe a dit non. J'ai souri d'ailleurs parce qu'on voit à l'écran, c'est notre ami commun, Guy Perkins, qui m'a fait parvenir cette caricature-là.
Écoute, ça, c'est écrit, voici la dernière femme que Donald Trump a baisée. Et c'est la justice.
Avec laquelle il a dormi. Donc, okay, oui. Voilà, avec laquelle il a couché. Donc, c'est un détail, c'est saugrenu, c'est un peu surréaliste, mais c'est Donald Trump a passé son temps dans les dernières années à qualifier Joe Biden de Sleepy Joe. On le répétait à de nombreuses reprises, il y a une question de perception, puis parfois une question de fait, mais Joe Biden est avancé en âge, il n'a plus la fougue et l'énergie de quelqu'un qui a 30 ou 40 ans. Il n'a pas la fougue d'un Obama, il n'a même pas la fougue d'un Joe Biden quand il était vice-président. Alors ça, c'est clair, c'est enregistré, et je pense qu'on peut comprendre quand on observe des proches que passer 80, est-ce qu'un petit roupillon l'après-midi, c'est tentant? Oui, je pense. Et peut-être même plus jeune. Donc, Monsieur Trump, on oublie souvent qu'il a pratiquement le même âge que Joe Biden. C'est fastidieux ce qu'on fait depuis le début de la semaine. On est en pause aujourd'hui. Mais Monsieur Trump s'est assoupi pendant les deux premières journées. Et ça a commencé par une journaliste, mais dont on sait qu'elle n'aime pas du tout Donald Trump, Maggie Haberman. Mais il y a d'autres journalistes, avant même qu'on ait cette reproduction de la scène par l'artiste qui est là pendant le procès. Et donc, on a dit, il a dormi, M. Trump. Il cognait des clous, comme on dit en québécois, ce que lui et ses proches se sont empressés de démentir. Deux choses. Un, c'est le ridicule des attaques contre Joe Biden dans ce cas-là. Ça vient défaire un peu son argumentaire. L'autre chose qui, elle, est plus sérieuse et qui est souvent sujette à débat, c'est est-ce qu'on aurait dû avoir dans cette salle, dans ce tribunal, une retransmission du procès? Il y a des pour et il y a des contre là-dedans, mais à qui on s'en remet pour valider l'information sur le déroulement? Rappelons qu'il y a des journalistes dans la salle, mais les journalistes, leur cote de popularité, elle est à la baisse, du moins auprès d'une portion de la population américaine. Donc hier, c'est carrément ça qu'on faisait, on sait bien. C'est les fake news, ce sont les médias traditionnels qui disent qu'ils dorment. Alors, ça laisse la place à M. Trump de s'exprimer en affirmant le contraire de ce que disent les médias. Puis ensuite, ben, c'est une question de perception. C'est la parole des uns contre la parole de l'autre. Mais c'est à tout ça que nous mène un truc dont on n'aurait pas dû parler autant. C'est long, une journée au tribunal. On pose des questions à d'éventuels jurés. Il a piqué un roupillon. Il a fait un petit power nap, comme on dit en anglais.
Tu me fais rire parce que tu as dit, on se pose la question, est-ce qu'on n'aurait pas dû entrer dans la salle d'audience? Et là, je me suis dit, il va dire un lit? Tu l'as dit dans les caméras. Alors, écoute, on se disait, ça va être difficile de trouver des jurés qui sont totalement objectifs parce qu'à New York, on sait que c'est un peu un fief anti-Donald Trump. Et là, on en a déjà sélectionné 7 qui ont été approuvés par la défense. Là.
Voilà. Mais on garde en fait nos munitions pour la fin, si je peux m'exprimer comme ça, pour les avocats de Donald Trump. Il faut en trouver 18 au total. Et on a même créé un bassin qui a 6 000, on a envoyé 6 000 convocations à des citoyens de Manhattan pour un bassin donc de 6 000 personnes dans lequel on peut piger, donc pour trouver nos 18 jurés. C'est 2 000 de plus que pour n'importe quel autre procès. Donc on connaît la nature de la bête, je parle du procès bien entendu, pas de M. Trump, mais on sait que c'est très polarisé. Donc, on se dit que sur 6 000 personnes, on devrait arriver à en trouver 18. La stratégie de Donald Trump dans la plupart de ses procès, pour ne pas dire tous les procès jusqu'à maintenant, c'est d'étirer les délais. Hein? C'est de jouer le sablier ou de jouer l'horloge en termes de sport. L'idée étant, faut pas qu'il y ait rien qui tombe comme décision avant le 5 novembre, avant la journée d'élection. Et ça peut étonner de voir à quel point le juge Merchant, mais il faut qu'il y ait collaboration des deux cas, donc à quel point on progresse vite. Et ce que le juge a comme ambition, lui, c'est aujourd'hui, c'est une pause. C'était prévu. Donc, on est à 7. On va arriver à 18 d'ici vendredi, de sorte qu'on commence à entendre les premières plaidoiries ou le début de l'argumentaire lundi prochain. Et au rythme où on va, c'est bien possible que ça se fasse. Mmh. Mais je reviens à ce que j'affirmais. Je disais, les avocats gardent leurs munitions pour la fin, les avocats de Donald Trump. C'est qu'on a un nombre restreint de candidats dont on peut se débarrasser sans avoir à justifier pourquoi on ne les veut pas. Donc, il semble qu'on ait trouvé suffisamment de caractéristiques auxquelles s'accrocher chez les 7 jurés dont on a arrêté l'identité ou le choix. Donc, il reste maintenant, des munitions aux avocats de Donald Trump pour dire on peut encore étirer ou on peut encore être plus pointilleux sur tous les autres jurés qui sont appelés. Donc, je rappelle, il y en a 12 qui vont siéger et il y en a 6 qui vont être en réserve au cas où on est à retirer un des 12 premiers jurés sélectionnés.
Écoute, j'aime ça quand tu me parles d'histoire parce que je suis frustré de ne pas avoir eu Luc Laliberté comme prof d'histoire quand j'étais plus jeune. Donc, ça me permet de corriger cette situation-là. Le 17 avril 1961, c'était une date importante, Luc.
Écoute, et pour plusieurs raisons. D'abord, parenthèse au début, mais tu vas voir que c'est lié. Quand on parle de Donald Trump, quand on parle de Joe Biden, puis des élections, de la polarisation, à peu près tout le monde a mentionné, peu importe le camp, il y a une crise de confiance à l'égard des politiciens aux États-Unis. Mais cette crise, elle n'est pas récente. Elle est peut-être arrivée à son paroxysme ou à un moment fort, mais cette crise, elle s'inscrit dans l'histoire. Et j'ai envie de te dire, ça débute avec John F. Kennedy, Lyndon Johnson et Richard Nixon. Quand la population américaine va se rendre compte qu'on leur ment, qu'on ne dit pas toute la vérité, ou que cette vérité, elle est révélée dans ses détails et ses nuances après les faits. Et l'incident auquel tu réfères, donc avril 1961, c'est l'échec de la baie des cochons, une tentative de renversement du régime castriste. Quand John F. Kennedy arrive au pouvoir, imagine la pression. Dans la période de transition, entre novembre et janvier, Trump et Biden se sont pas parlé. À l'époque, c'était différent. Eisenhower rencontre John F. Kennedy puis lui dit, écoute, mes conseillers politiques, le secrétariat d'État, le Pentagone, on embarque là-dedans la CIA. Tous ces gens-là m'ont aidé à concocter ou à préparer un plan d'invasion de l'île. Et Kennedy se retrouve avec le dossier sur son bureau quand il devient président. Eisenhower ne l'a pas rendu opérationnel avant de quitter. Et là, Kennedy, à qui on reproche un peu comme on l'avait fait à Obama, d'être un président sans grande expérience en politique étrangère, trop jeune, inexpérimenté, il a ça sur son bureau et il se rend compte dès le départ qu'on s'entend pas au sein des différents services. Entre autres, il y a une opposition entre le personnel politique, la CIA et l'armée. Il se rend compte qu'il n'y a pas unanimité là-dedans. Donc, il va avoir à trancher sans nécessairement que tout le monde l'appuie. Et c'est un échec, probablement un des échecs, à part le Vietnam, les plus humiliants des Américains.
Parce qu'il y a des Cubains qui avaient quitté Cuba et qui étaient anti-Castro, et eux autres disent, bon, on s'en va sur des bateaux, on va aller à Cuba, et là, on va aller tuer Fidel Castro, renverser son régime. Et là, on leur a promis, l'armée va être avec vous, on va envoyer des avions, il va avoir une couverture aérienne, on y va all in. Alors, eux autres, ils disent, OK, ils partent en bateau, puis tout ça. Mais là, ils se rendent compte que Kennedy a choqué, lui-là. Puis là, soudainement, ils n'ont plus de couverture aérienne, ils n'ont plus rien. Ils sont tout seuls. Ils arrivent là en radeau, tout seuls. Évidemment, ils se font prendre comme des pigeons, puis ils se font tout arrêter, toute la gang. Là.
Dans les journées qui ont précédé le 17, il y a eu des raids aériens, mais on va s'apercevoir assez rapidement du subterfuge américain. Kennedy avait dit, il n'y aura pas d'intervention américaine sur l'île de Cuba. Et c'est la raison pour laquelle on va donc faire appel aux exilés cubains dont on maquille les avions ou encore les navires aux couleurs de Cuba. Mais très, très, très tôt, les journalistes d'enquête vont dire c'est les Américains qui sont derrière ça. Et Kennedy est en train de perdre la face sur la scène internationale et au plan diplomatique. Et c'est là où il y a une portion de son jugement qui devait reposer sur de meilleures informations de la CIA, sur un meilleur repérage du terrain. On s'est rendu compte finalement qu'il n'y avait pas de coordination entre les différents services et on a même enquêté sur les procédures utilisées par la CIA par la suite. Donc, Kennedy s'est retrouvé avec cette patate chaude entre les mains, mal informé, peu de cohésion, si on veut, ou d'uniformité dans la transmission de l'information. Et ça donne un fiasco terrible qui va pousser encore plus Fidel Castro dans les bras du régime soviétique. Et ça nous mène tout ça hein, en 1962. En passant, la mafia est impliquée là-dedans. Et ça, on va l'apprendre plus tard. Faut savoir que Fidel Castro, quand il prend le pouvoir, il chasse hein, la mafia américaine qui était là. Entre autres, Giancana, qui avait parlé, qui avait négocié finalement avec le père de John F. Kennedy pour le faire élire, pour acheter des votes lors de l'élection de 1960. Donc, c'est tout ça qui va exploser éventuellement.
Et tu dis ça a poussé Castro dans les bras du régime soviétique et ça a poussé les exilés cubains à Miami dans les bras du Parti républicain parce qu'eux autres en ont voulu en maudit aux démocrates de les avoir laissés tomber. Donc, c'était le 17 avril 1961. Si vous voulez en savoir plus, on trouve sur YouTube un paquet de documentaires absolument passionnants sur cette journée-là.
Sinon, venez me rejoindre à Ottawa en fin de semaine. Je suis avec des étudiants dans un bunker désaffecté. Je leur fais gérer la crise des missiles de Cuba qui a suivi au mois d'octobre 1962. Donc, ils deviennent Américains et Soviétiques et ils doivent trouver un terrain d'entente. Alors, venez nous rejoindre.
Ouais, j'ai pas eu de preuve d'histoire comme ça. Pourquoi? Ils sont chanceux. Merci, Luc.
C'est un grand plaisir, Richard. Salut. Bonne journée.
À demain.